Chaque année sur notre planète, ce sont 10 000 personnes qui disparaissent sans jamais être retrouvées. Ce sont plus de 400 000 hommes, femmes, enfants qui sont victimes d'homicides volontaires, assassinés par un proche ou un inconnu. Ce sont donc autant d'affaires criminelles et mystérieuses qui se retrouvent à faire la une des infos et discussions sur Internet, des journaux télévisés, des flashs radio. Avec, pour seul objectif, connaître la vérité. Une vérité qui, malgré les apparences, n'est jamais très loin.
Le 15 août 2021, Jonathan, Hélène et leur petite fille d'un an, Mijou, décident d'aller se balader dans le parc naturel du Sierra National Forest en Californie, non loin du célèbre parc Yosemite. C'est une belle journée qui s'annonce, la famille est prête pour cette randonnée, mais le lendemain matin, la famille est aux abonnés absentes. Personne ne voit Jonathan à son bureau. De son côté, Hélène ne se présente pas devant les élèves qui devaient assister à son cours de yoga de 11h, et la petite n'est pas déposée chez la nounou. Ça ne leur ressemble pas, et en plus de cela, leurs téléphones portables sont tous les deux sur messagerie. Alors où sont-ils? Que leur est-il arrivé? Faut-il s'attendre au pire? Jonathan Jerisch et Hélène Chung ne sont pas américains. Jonathan est anglais, il est né à Preston, et Hélène vient de Corée du Sud. Ils se sont rencontrés aux États-Unis, à San Francisco, en 2010, et sont tout de suite tombés amoureux. À ce moment-là, lui est étudiant en informatique, et Hélène, étudiante en psycho. Ils se sont installés ensemble en Californie, et ils s'y plaisent. Jonathan a trouvé du travail au sein de l'entreprise Snapchat. Hélène, elle, donne des cours de yoga prénatal, tout en suivant plusieurs patients en psychothérapie. Mais l'épidémie de Covid-19 passe par là. Et Hélène, comme Jonathan, sont en télétravail depuis chez eux. À ce moment-là, ils prennent une décision radicale. Ils quittent San Francisco en mars 2020 pour venir s'installer 200 km plus loin, à Mariposa, un endroit tranquille en pleine nature, afin d'élever sereinement leur petite fille prévue pour l'été de la même année. Leur fille naît donc en août 2020 et s'appelle Mijou. La petite famille est installée dans une belle maison et peut s'adonner à tout un tas d'activités. Randonnée dans les parcs nationaux, balade à vélo, surf. Et ça tombe bien puisque Jonathan et Hélène sont férus de randonnée. Ce sont des randonneurs aguerris, et ils prennent donc vite l'habitude de partir en famille, avec leur fille et leur chien au ski, en prenant toutes leurs précautions. Chaussures de marche, bâtons, chapeau, litre d'eau, barre de céréales. Le dimanche 15 août 2021, à 6h45, la famille se réveille pour se préparer à partir en randonnée, justement. Ils déjeunent rapidement et grimpent dans leur voiture un Ford Raptor acheté quelques mois plus tôt, à 7h pétante, direction le parc naturel du Sierra National Forest, en Californie. Ils ont prévu de randonner sur un sentier d'une douzaine de kilomètres qui suit la rivière Merced. Le ciel est dégagé, il fait beau, le parcours est tout tracé, la famille doit partir du Heights Cove Trail pour rejoindre le South Fork Merced Trail et retourner à la voiture en remontant le Savage Lundy Trail. La famille se gare donc au bout du Heights Cove Trail et entame la randonnée. Jonathan a son téléphone portable, c'est lui qui porte sur son dos, dans un porte-bébé de randonnée, leur petite fille. Et de son côté, Hélène porte donc... dans son sac à dos 2,5 litres d'eau. Et c'est parti pour la randonnée. Le lendemain matin, le 16 août, Jonathan ne se présente pas à son bureau dans les locaux de Snapchat. De son côté, les élèves d'Hélène, à qui elle doit donner un cours de yoga à 11h, ne la voient pas. Une absence étrange. D'autant plus qu'Hélène prévient toujours d'habitude sur le groupe WhatsApp qu'elle partage avec les élèves. Et puis les deux téléphones sont sur messagerie. La nourrice, qui garde Mijou d'habitude, n'a pas de nouvelles. Elle s'inquiète et prévient la police que quelque chose n'est pas normal. L'affaire est immédiatement prise au sérieux et une petite équipe de la police de Mariposa se rend directement sur le lieu de la randonnée. Le mardi 17 août, à 7h du matin, la voiture, le Ford Raptor, est repérée sur le parking du Sierra National Forest. Deux policiers partent alors sur le sentier de randonnée que la famille a emprunté. Un hélicoptère est appelé en renfort et les recherches ne vont pas prendre très longtemps. À 9h précisément, ce mardi 17 août, les deux policiers partis à pied repèrent trois formes étendues sur le sentier. Après vérification, il s'agit bien des corps de Jonathan Jerrish, retrouvé face contre terre, de la petite Mijou, décédée également, et du chien Oski, lui aussi mort. Tous les trois ne présentent aucune blessure apparente. Un peu plus haut sur le sentier, un quatrième corps, celui d'Hélène, morte elle aussi, couchée sur le ventre, et aucune trace de blessure non plus. La découverte est étrange, que s'est-il passé? Les policiers continuent un petit peu la randonnée sur le sentier et découvrent un peu plus loin la clé de voiture par terre. Une enquête est immédiatement ouverte afin de comprendre ce qui s'est passé. Le corps de Jonathan est analysé en premier. Les examens ne montrent aucun traumatisme. Au tout départ, les médecins légistes ne sont pas en mesure de déterminer la cause du décès. Et c'est exactement la même chose pour le reste de la famille. Alors les enquêteurs interrogent les amis, les proches, pour en savoir un peu plus sur eux. Comment vivaient-ils? Est-ce qu'ils s'entendaient bien? Est-ce qu'il y avait des problèmes particuliers? Les amis et les proches de Jonathan racontent que non. Lui était très excité à l'idée de rénover sa maison. Le couple était très protecteur avec Mijou, la petite fille. Il faisait attention à la moindre chose. Pour eux, jamais ils ne mettraient en danger leur fille, ni même leur vie à eux. La maison familiale est inspectée, mais rien de particulier n'est retrouvé. En plus, la femme de ménage était passée, sans savoir ce qui était arrivé à la famille, donc la maison est propre, tout a été nettoyé. La police lui demande si quelque chose lui avait semblé inhabituel en arrivant pour faire le ménage dans la maison, mais non, pour elle, tout était normal. Pas de blessures apparentes, pas de problèmes familiaux, une famille heureuse, alors comment sont-ils morts? La première théorie logique qui est avancée, c'est que la famille a peut-être manqué d'eau. Il faisait chaud ce jour-là. Est-ce qu'ils n'auraient pas bu dans cette rivière qui longe le sentier? Une rivière contaminée par des algues toxiques. Le 13 juillet 2021, les rangers du parc avaient installé des panneaux interdisant aux visiteurs de s'approcher de la rivière. Le couple a forcément vu ces panneaux, ça paraît peu probable qu'ils s'y soient aventurés. En tout cas, des échantillons sont prélevés sur le peu d'eau qui reste dans la vessie d'Hélène. Les résultats montrent que l'eau contient une quantité modérément élevée de très petites bactéries. Trois échantillons d'eau sont prélevés dans différentes zones entourant le parc. Les deux premiers échantillons ne montrent rien de notable qui pourrait nuire à l'homme. Le troisième échantillon contient une bactérie connue pour tuer des animaux et en particulier des chiens. Mais sans décès humain connu. Et les médecins sont affirmatifs, ils analysent Oski, le chien, ils trouvent une faible quantité de cette bactérie, mais ce n'est pas ça qui a pu le tuer. Il aurait fallu qu'il en ingère beaucoup plus que ça. Il est très peu probable que la famille soit décédée en ingérant cette eau. La piste des algues toxiques est donc éliminée. Une autre source potentielle d'empoisonnement est étudiée par les autorités, puisqu'à proximité du Savage Lundy Trail se trouvent les vieilles mines abandonnées de Devil's Gulch, creusées du temps de la ruée vers l'or dans les années 1850-1860. Et souvent dans ces cavités, la teneur en monoxyde de carbone peut s'avérer élevée. En 2013, deux ouvriers d'une mine d'or du Colorado ont ainsi trouvé la mort intoxiquée. Alors les Jerrish se sont-ils approchés trop près d'une entrée de mine? Une poche de gaz a-t-elle éclaté au moment de leur passage? Le shérif du comté, Jeremy Breeze, a ensuite annulé cette piste, finalement indiquant qu'il n'y avait aucune mine autour de l'endroit où se trouvaient les corps. Entre-temps, tout le monde se pose cette question. Si la famille a été en difficulté, Jonathan et Hélène ont-ils appelé à l'aide? Lorsque les policiers ont découvert les corps, un téléphone portable a été retrouvé dans la poche de Jonathan Jerrish. Et ce téléphone va montrer plusieurs choses. D'abord, dans le téléphone, la police découvre plusieurs selfies, une vidéo et quelques photos prises par le couple pendant leur randonnée. 16 au total, précisément entre 7h44 et 12h25. La dernière photo prise par le couple est une capture d'écran de leur position sur une application de randonnée. Les autorités ont également pu récupérer un SMS provenant du téléphone de Jonathan Jerrish à 11h56 et disant « Pouvez-vous nous aider? Nous n'avons pas d'eau et la petite a très chaud. » Malheureusement, le réseau téléphonique dans le secteur où il se trouvait est inexistant. Environ 13 minutes après ce message, le téléphone de Jerrish indique qu'il a essayé d'appeler plusieurs numéros. Le premier appel a été effectué à 12h09, suivi de 4 autres appels à 12h35 à 1 minute d'intervalle. La famille a donc bien essayé d'appeler à l'aide, mais cela n'a pas abouti. L'hypothèse d'un manque d'eau semble donc confirmée, et un témoin qui promenait son chien dans le secteur va nous en apprendre un peu plus sur ce qui s'est passé. Il assure avoir vu la famille se garer au début du sentier vers 7h45. Il faisait déjà 24 degrés à ce moment-là. Jonathan, Hélène, Mijou et leur chien Oski auraient donc parcouru le Height Cove Trail sur 3,5 km avant de suivre l'embranchement sud de la rivière Merced sur 3 km, ce qui nous emmène au Savage Lundy Trail, 2 heures de plus pour parcourir ce chemin. Selon les enquêteurs, la famille serait donc arrivée en bas du sentier vers 11h30. À ce moment-là, la température était de 38 degrés. Et aucun point d'ombre, puisque des incendies ont brûlé tous les arbres sur ce secteur quelques mois plus tôt. À midi, il faisait 43 degrés, et les enquêteurs pensent que c'est Mijou, la petite fille, qui aurait commencé à montrer des symptômes d'hyperthermie. Jonathan se serait alors arrêté pour lui faire de l'ombre et tenter d'appeler à l'aide. Pendant ce temps, Hélène aurait continué pour tenter de trouver quelqu'un ou un point d'eau. Les enquêteurs interrogent alors un employé du service forestier des États-Unis qui connaît très bien cette boucle de randonnée, un sentier qu'il considère lui comme difficile parce que très exposé au soleil et avec un fort dénivelé. Il assure que les randonneurs évitent de l'emprunter pendant l'été et qu'il faut prévoir au moins 3 litres d'eau par personne pour cette randonnée. On vous le rappelle, la famille n'avait emporté que 2,5 litres pour 3, 4 en comptant le chien. Un médecin bien calé sur les dangers de la randonnée est également interrogé par les forces de l'ordre. Pour lui, il y a de fortes chances que la famille soit morte d'hyperthermie et de déshydratation. La réponse est finalement obtenue quelques semaines plus tard. Jonathan, Hélène, Mijou et Oski seraient bien morts d'hyperthermie. Lorsque le corps humain dépasse les 40 degrés, il perd ses capacités d'autorégulation. Le système cardiovasculaire est alors le premier à être affecté. La tension chute et le cœur accélère. Les reins et le cerveau sont également rapidement touchés et la mort peut donc arriver très vite, les organes cessant de fonctionner correctement. Bien qu'ils aient été des randonneurs aguerris, Jonathan et Hélène n'avaient donc pas assez bien préparé leur randonnée. Ils avaient choisi un endroit trop difficile, avec trop de dénivelé, sans ombre et sans point d'eau, en emportant trop peu d'eau avec eux. Cette randonnée dans le Sierra National Forest leur aura été fatale.
Si vous souhaitez découvrir toutes les images qui concernent cette affaire, rendez-vous dès maintenant sur notre chaîne YouTube, Charlie Frigoul.